podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Barlier.
Bienvenue dans ce nouveau dossier podcast de Frontières des séries. Les histoires d'extraterrestres, nous en avons déjà vu et entendu des tonnes. Au cinéma, à la télévision, de la quatrième dimension à X-Files, en passant par la guerre des mondes, Roswell, E.T. ou encore ALF. Vous l'aurez compris, la façon d'aborder le sujet peut être très différente. Aujourd'hui, nous allons la découvrir à partir du point de vue d'un maître en la matière, Steven Spielberg, car en effet, c'est au début des années 2000 que le producteur se lance dans la création d'une nouvelle mini-série, Taken, ou en français, Disparition. La série, qui peut être caractérisée de saga, nous raconte l'histoire de trois familles sur quatre générations, c'est-à-dire de 1947 à nos jours. Seront ici abordés les enlèvements par des extraterrestres et le complot gouvernemental destiné à dissimuler la présence d'aliens sur Terre, mais pas que. Et pour nous en parler, c'est Cindy Willem, bonjour.
Bonjour.
Et pour nous accompagner dans cette discussion, c'est Tillemont Villette, bonjour.
Bonjour.
Alors Cindy, quelles sont les autres thématiques qui sont abordées dans Taken Disparition?
Comme on le disait, il y a les enlèvements des extraterrestres, le complot du gouvernement, mais il n'y a peut-être pas que le gouvernement qui va comploter, peut-être que les extraterrestres eux-mêmes ont un plan secret. Et donc c'est au travers de trois familles sur quatre générations qu'on va découvrir quel est ce plan secret des extraterrestres dans Taken. C'est une mini-série de 10 épisodes qui dure chacun 1h30. Donc il y a quand même...
C'est déjà du costaud ça.
Oui, donc déjà un épisode, on est parti pour un film. C'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps. Maintenant, c'est vrai que pour parler de 3 familles sur 4 générations, donc 50 ans, il y a quand même du boulot.
Il doit y avoir un sacré paquet de personnages là-dedans.
Ce qui est, je reviendrai plus tard justement là-dessus, peut-être pas le point fort parce que du coup, on a un peu du mal à les découvrir en profondeur. Pour vous retracer brièvement l'histoire de Taken, c'est une histoire quand même assez longue. Je vais peut-être essayer de ne pas vous en dire trop si vous voulez la découvrir. Donc je vais plutôt me baser sur le premier épisode. Tout commence durant la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, on a le capitaine Russell Keyes qui, en plein vol, voit des lumières, survit malgré tout à un crash qu'il pensait pourtant imminent parce qu'il se fait tirer une balle. Et 2 ans plus tard, quand il revient chez lui, en 1947, il continue malgré tout d'avoir des cauchemars, repense évidemment à son enlèvement par les extraterrestres durant la guerre. Il retournera voir un peu plus tard ses coéquipiers, qui eux aussi s'étaient fait enlever ce jour-là pour essayer d'avoir des explications, comprendre ce qui s'était passé, parce que personne n'en avait vraiment discuté juste après. Il se rend compte qu'ils sont tous morts, ou presque, et qu'il est le seul à survivre à cet enlèvement, à ce que les extraterrestres leur ont fait.
Donc il serait finalement un engrenage essentiel à une future conspiration extraterrestre ou quelque chose qui s'en approche.
Voilà, parce que donc Russell Keyes, c'est le premier de la famille des Keyes à subir les enlèvements des extraterrestres. Et on va découvrir qu'ensuite, son fils et le fils de son fils vont subir le même sort en vue d'eux. Je ne vous en dis pas plus à ce niveau-là. À côté de Russell Keyes, on a la famille Crawford. Le premier qu'on découvre est Owen Crawford. Owen Crawford, c'est un capitaine dans l'armée. Il découvre non seulement la soucoupe volante qui s'est crashée à Roswell.
D'où le 1947 de début d'histoire.
Voilà, 1947. Parce que, évidemment, la série va reprendre pas mal de phénomènes paranormaux qu'on dit s'être produits.
On va avoir alors Roswell, la zone 51 et...
Les lumières,
tout le reste,
voilà.
Les lumières dans le ciel, les gens qui disent avoir été enlevés.
Les crop circles.
Très, très, très original pour le coup. Hein.
Voilà, on reprend vraiment le tout.
C'est moi où on suit plus ou moins le même canevas que la série de la Terre à la Lune dont tu nous avais parlé, qui elle était ancrée dans le réel, et ici qui reprend des éléments un peu science-fictionnels, mais qui se sont... entre guillemets, déroulé.
Exactement. On reprend vraiment des faits historiques. Enfin, on se base, évidemment, de la Terre à la Lune, c'était plus probable que les extraterrestres, mais on se base sur ce qui a été dit. Et malgré tout, il y a quand même une recherche de ce qui s'est dit à l'époque. Donc, par exemple, après le crash en 1947, ils vont dire « Ah mais non, c'était pas des soucoupes que vous avez vues, c'était un avion, l'avion U-2 de l'armée de l'air, c'est un test secret. » Et en réalité, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est ce que les... Enfin, Par rapport aux rumeurs qu'il y avait, on a trouvé cette excuse de l'avion U2.
C'était ça ou un ballon sonde.
Voilà, c'est ça. Et donc, on reprend vraiment ce qui a été dit à l'époque. On remet tout dans le contexte historique. Ça, c'est le point positif, je trouve. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'il y a quand même aussi la grande partie est du fictionnel. Ici, on est dans une saga. Mais c'est vrai que, comme tu disais, ça se rapproche de la Terre à la Lune par rapport à ça, parce qu'on raconte vraiment une histoire. C'est un peu comme une épopée dans le cas de la Terre à la Lune, alors qu'ici, c'est générationnel. C'est le même point de vue, on va dire. Et donc, je vous parlais de la famille Crawford. Donc, la famille Crawford, c'est un peu les méchants de l'histoire. On va voir que ses enfants vont tout faire pour garder le secret de la vie des extraterrestres. Et justement, à ce propos, je vous propose d'écouter un petit extrait qui reprend Owen Crawford et une de ses amantes, qui a trouvé juste après le crash un objet métallique avec des cryptogrammes. Et elle va l'apporter à Owen. On se rendra compte, juste après cet extrait, que Owen fera tout pour justement le garder pour lui, vu qu'il finira par la tuer et garder cet objet.
Sue, je suis si content de te voir. Lieutenant, je vous présente Sue. Madame.
Tu as la mémoire courte. Tu as oublié mon nom de famille? Si je viens ici depuis 2 semaines, ce n'est pas pour parler de toi et de moi, Owen. C'est pour te montrer quelque chose.
Où est-ce que tu as trouvé ça?
Là-haut, à Pine Lodge.
Viens, viens dans mon bureau.
Le soir où tu m'as laissé tomber pour aller au cinéma avec cette idiote d'oie blanche, je suis allée faire un tour en voiture. J'ai été témoin d'un accident. Je suis allée voir. Il y avait quelque chose dans les arbres, mais il faisait noir et je n'ai pas vraiment vu ce que c'était. Ensuite, j'ai trouvé ça.
Et tu as décidé de me l'apporter. Sue, je n'ai jamais pu te parler de cette soirée-là. J'avais vraiment rendez-vous avec le colonel. Il est tombé malade et sa fille est venue me prévenir.
Oui, c'est ça.
Tu as mal interprété la situation, c'est un malentendu.
Oui.
Tu es le soleil et la lune pour moi, Sue. Le soleil et la lune.
On voit dans cet extrait que le personnage donc, d'Owen Crawford est un peu méchant et crapuleux. Est-ce que l'autre famille, donc la troisième famille dont tu nous parlais, est du même acabit?
Eh bien non, parce que donc ici je vous ai toujours parlé de 2 familles, les Keys qui sont liés aux enlèvements des extraterrestres, les Crawford qui sont les méchants, donc les agents gouvernementaux qui protègent le secret, et à côté de ça, on a la famille avec un lien génétique extraterrestre. Tout commence avec Sally Clark, qui est une femme au foyer délaissée par son mari, qui va rencontrer un homme dans sa cabane qui a l'air mal en point, et elle va donc le recueillir chez elle. Elle va le soigner durant quelques jours et elle va tomber amoureuse de lui.
Et elle va finir par coucher avec un extraterrestre, c'est ça?
Voilà. J'ai tout compris.
Ah, le cliché, je te voyais venir à 25 km.
Et donc voilà, elle va tomber enceinte de l'extraterrestre. Juste après avoir couché avec elle, évidemment, John, parce qu'il se dit s'appeler comme ça, John s'en va, elle accouche d'un enfant. On ne voit pas l'accouchement parce que, évidemment, on saute environ une dizaine d'années et on revient avec Jacob, qui est cet enfant né de Sally et de John, qui est un enfant un peu introverti et qui va avoir des pouvoirs. Par exemple, en regardant les personnes et en se concentrant, il va pouvoir leur faire voir leur pire cauchemar, leur plus grande peur.
C'est pas comme si on avait déjà vu ça dans V.
Évidemment, Owen Crawford va entendre parler de cet enfant. Il va essayer de se rapprocher de cette femme et kidnapper l'enfant pour pouvoir l'étudier. Je ne vous en dis pas plus sur la suite.
Laisser une part de suspense si tant est qu'il y en ait encore.
Voilà. Et puis, malgré tout, il va y avoir un lien, vous le comprendrez, entre la famille Clark et la famille Keys. Évidemment, vu que les extraterrestres enlèvent toutes ces personnes dans un seul but, d'avoir quelque chose au final qui les intéresse, c'est Ali, qui est la petite fille qui est jouée par Dakota Fanning, qu'on voit d'ailleurs dans le générique, à la fin du générique.
Non, pas Dakota Fanning, non, pitié. Ça, c'est le clou qui enfonce la chose pour que je ne regarde même pas la
mais
série.
Mais là, à nouveau, on se rend compte, c'est du Spielberg, la petite fille blonde à longs cheveux. Ça nous fait un peu penser à la petite fille blonde aussi dans Poltergeist. On a déjà vu aussi Dakota Fanning, justement, dans La Guerre des Mondes aussi, avec des extraterrestres. Enfin, c'est un peu le serpent qui se mange la queue, hein, Spielberg à la télévision.
Moi, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que la petite fille, justement, lors du dernier épisode, Je sais pas du tout si c'est voulu, mais elle avait un gilet rouge et les images étaient assez sombres. Et du coup, ça donnait vraiment cette impression, un peu comme dans le film La Liste de Schindler.
Mais c'est clair que ici, il n'est que producteur, mais il a clairement la main mise sur la production, mais également la réalisation, je pense, de certains épisodes. Et certains éléments se retrouvent dans la carrière de Spielberg de manière complètement obsessionnelle, que ça soit consciemment ou inconsciemment, peut-être à certains moments. Mais si quelqu'un se penchait vraiment pour analyser l'entièreté de sa carrière, que ce soit cinématographique ou télévisuelle, je crois qu'il retrouverait des constantes assez impressionnantes.
Bien que c'est vrai qu'ici, tu le disais, c'est que le producteur et que moi, j'ai plutôt l'impression que son nom est sur la pochette du DVD ou au début de ce générique, plus pour faire la promo de la série que par sa réalisation, parce que malgré tout, le scénario, c'est Leslie Boehm qui l'a réalisé pour les 10 épisodes. Et donc, c'est peut-être aussi une raison pour laquelle, bon, cette série, c'est pas la meilleure qu'on ait vue. Si elle est de 2002, je trouve qu'il y a un gros faible au niveau du scénario, aussi au niveau des personnages. On sait que de toute façon, Spielberg, c'est pas le meilleur pour tout ce qui est série, ne serait-ce qu'après Terra Nova, qui a été un grand flop. Je pense qu'il manque quelque chose aussi à cette série.
De l'originalité, peut-être, quelque part.
Voilà.
Et puis, quelque chose qui ne soit pas du déjà vu des ouais. dizaines de fois.
Ouais. Et puis je pense aussi le fait que de vouloir traiter ce sujet sur 50 ans, ça cause un problème au niveau des personnages.
D'ailleurs, par rapport à ces personnages, est-ce que en tant que spectateur, on s'y retrouve avec les trois générations de trois familles? Ça doit faire une cinquantaine de personnes au final qui doivent interagir sur 10 épisodes. C'est un peu audacieux quand même. Hein.
Oui, il y a énormément de personnes qu'on voit défiler et donc des fois on voit les enfants petits, puis on les revoit plus âgés et puis il y a aucun lien en fait avec l'enfant et adulte. Et ça aussi, c'est un peu dérangeant.
Je vais revenir à De la Terre à la Lune, parce que dans De la Terre à la Lune, on passait d'une famille de cosmonautes à une autre famille de cosmonautes parce que bah voilà, les équipes changeaient et il y avait, comme tu nous l'avais dit à l'époque, un journaliste qui faisait la liaison entre chaque épisode, quelques personnages qui étaient toujours présents, même si très peu, pour avoir une liaison. Ici, est-ce qu'on a un personnage qui part du premier épisode et qu'on retrouve dans le dixième, ou bien par moment on quitte complètement et on n'a plus de repères, il faut qu'on se retrouve un nouveau personnage principal à aimer et à suivre?
Non, entre le premier et le dernier épisode, il n'y a aucune personne qu'on retrouve sur les 10 épisodes. La seule qu'on entend sur les 10 épisodes, en voix off, c'est Ali. Un que l'on voit au début et qu'on revoit dans le dernier, c'est John, c'est l'extraterrestre en fait. Donc lui, il n'a pas vieilli parce qu'évidemment, les extraterrestres peuvent prendre la forme qu'ils souhaitent, donc ça n'a aucune incidence. Mais ça, c'est peut-être justement leur gros point faible, c'est de ne s'attacher à personne parce qu'on n'a pas le temps de les connaître. On passe trop vite à la génération qui suit.
Et la série est articulée comment? C'est très linéaire ou bien on a des flashbacks, ou bien dans chaque épisode, on a plus ou moins 10 ans d'existence d'une famille et puis on passe au suivant?
Non, c'est même pas par épisode, on a pas de flashback, c'est très linéaire.
On voit vraiment l'histoire dans sa continuité.
Oui, oui, clairement. Et puis, on va par exemple voir pendant une demi-heure à un moment donné, puis on va passer sur plusieurs mois de la même année, et puis tout d'un coup, on va nous dire, ah, 10 ans plus tard, et puis on va se retrouver avec de nouveaux personnages. On va voir la mort des personnages malgré tout, ou pratiquement.
Ça induit peut-être aussi un problème de rythme, parce que bon, garder l'ordre chronologique de 4 générations, c'est un peu plan-plan. C'est vraiment, on fait défiler l'histoire du début jusqu'à la fin. Dans la narration actuelle, en tout cas des séries télévisées, c'est quelque chose qu'on ne voit plus, ou en tout cas très peu.
Oui, ça devient ennuyant. Le premier épisode, on le regarde, mais c'est pas terrible. Et puis on se prend un peu au jeu, le deuxième, le troisième épisode. Et puis ça nous ennuie vraiment, en fait, parce qu'on n'est plus habitué non plus à avoir quelque chose de narratif et linéaire comme ça. On aime avoir un peu de suspense. Et là, il faut vraiment le regarder comme un récit historique et non pas le prendre pour une série actuelle à suspense, quoi.
Ce qui est paradoxal, finalement, puisque ça reste quand même une histoire de science-fiction. C'est faire un peu passer des vessies pour des lanternes.
Voilà, et je pense qu'ils se sont un peu trompés en voulant nous parler des extraterrestres sur ce thème-là. Je pense qu'ils ont voulu prendre un point de vue différent, mais c'est pas réussi. Et puis surtout, plus on avance dans les épisodes, plus on se rend compte que ça devient ridicule, que c'est vraiment des histoires à dormir dehors. Mais je vous propose maintenant d'écouter un petit extrait qui nous montre Russell Keyes qui explique à sa femme qu'il a été enlevé durant la guerre par les extraterrestres.
Je suis désolé.
C'est rien. C'est rien.
J'ai toutes ces images dans ma tête. n'arrive pas à me concentrer sur autre chose.
Ces images dans ta tête, c'est ce que tu as vécu à la guerre?
J'ai reçu une balle dans le ventre. J'allais mourir. Et mon avion perdait de l'altitude. 3 jours plus tard, je me suis retrouvé dans un champ. En France. Avec tous mes hommes. Sans la moindre idée d'où on avait pu être pendant ces 3 jours et comment on s'était retrouvé dans ce champ. Ni pourquoi on était encore vivant.
Qu'est-ce que tes hommes ont dit ?
On n'en a jamais parlé. Il m'est arrivé quelque chose. Et je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai l'impression que ce n'est pas fini.
Vu que c'est une série science-fictionnelle, évidemment, ça induit probablement qu'il y ait des effets spéciaux. Alors, Cindy, est-ce que les effets spéciaux de cette série, déjà à l'époque, valaient il le coup? Et surtout, maintenant, ça fait quand même 12 ans qu'elle a été diffusée. Est-ce que les effets spéciaux restent encore, je dirais, d'actualité, ou est-ce que ça a très très mal vieilli?
Mais moi, je dirais plutôt que c'est pas vraiment les effets spéciaux qui posent problème dans cette série, parce qu'il y en a très peu au final. On ne voit que des soucoupes volantes à certains moments, et des extraterrestres, mais aussi pas super souvent. On en voit quand même quelques fois, mais et ça, je dois dire que c'était pas encore trop mal fait. Les soucoupes volantes et les extraterrestres, bon, évidemment, je pense que si on devait refaire des extraterrestres aujourd'hui, ils seraient probablement mieux travaillés, on va dire. Mais c'est pas du tout la question de la série, parce que, comme je disais, c'est plus une série saga avec un récit, et on s'attache pas vraiment aux effets spéciaux. Maintenant, c'est vrai que c'est une série qui est sortie en 2003 chez nous, en France. Et j'ai l'impression que c'est comme si cette série était déjà vieille au final quand elle est sortie, parce que 2003-2004, c'est les années où sont sorties Lost, Grey's Anatomy, ce genre de choses. Avec Taken, on est dans une optique un peu plus vieillotte. Puis la qualité d'image aussi est pas super, je trouve. Et c'est à ça qu'on voit que c'est une série plus ancienne.
Déjà, ne serait-ce que par son format, des épisodes d'1h30 pour l'époque, c'était complètement dépassé. Je dirais, les épisodes d'1h30, c'était les séries des années 80, éventuellement 90. Avec le nouvel âge d'or des séries, les longs épisodes ont carrément rendu l'âme. Hein. Notamment Lost, les Desperate Housewives de cette époque-là ont induit des épisodes de 40 minutes plutôt.
Ah oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est une série qui, à l'époque, que j'avais découvert sur Canal+, j'avais devoir avoir 17 ans, et je pense que à cette époque, c'était pas encore trop mal, mais en 2002, c'était pas encore l'envol des séries TV comme aujourd'hui. Donc on se rendait pas vraiment compte, mais bon, évidemment, si je l'avais revu, je sais pas, peut-être en 2005, j'aurais peut-être pas eu cette même impression.
Est-ce qu'on y retrouve également cette patte agaçante de Steven Spielberg qu'on retrouve dans quasiment toutes les autres séries qu'il a produites ou dans laquelle il a été engagé, de faire une série où il y a un côté très didactique, où il faut absolument apprendre quelque chose aux gens par l'intermédiaire de la série? Parce que bon, finalement, ici, on est dans une série de science-fictionnelle, mais est-ce qu'au travers de l'histoire de science-fiction, il nous enseigne aussi l'histoire contemporaine qui s'est déroulée pendant la période de 1947 à 2000. Est-ce que ça fait partie du terreau autour de la série, ou bien c'est à peine évoqué?
Disons qu'on reprend le contexte historique, mais on ne le traite pas vraiment. On voit juste Russell Keith dans son avion pendant la guerre, et puis il revient de la guerre. On voit des témoignages de personnes qui ont été enlevées par les extraterrestres, mais ça reste vraiment dans ce domaine-là, et ça reste vraiment dans les familles. Ça va pas plus loin. Maintenant,
c'est pas plus mal, hein, entre nous.
Oui.
Parce que c'est ce qui plombe la plupart des séries de Spielberg.
Oui, et pourtant, celle-ci est quand même ennuyante.
Et dans Terra Nova, on apprenait comment ils faisaient les dinosaures.
C'est sûr que Spielberg, les séries, c'est pas son fort. Je pense qu'il devrait rester cantonné au film. Mais oui.
Ça fait des années qu'on lui crie, hein, mais je sais pas s'il nous entend, c'est ça le problème.
Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'il veut nous apprendre quelque chose par le fait de retracer justement les extraterrestres dans le contexte historique. Même si ce contexte historique n'est pas super important, parce que voilà, on ne le détaille pas, mais on part de la guerre. Comme je disais tout à l'heure, on a dit que les soucoupes volantes en fait étaient un avion U2. Il va reprendre les différents phénomènes qu'on a vus sur les extraterrestres, comme les crop circles, les Foo Fighters, ce genre de choses. Donc peut-être qu'il veut nous apprendre ce genre de choses avec la série, mais voilà, sans plus. Pourtant, il faut savoir, c'est que ça a quand même reçu l'Emmy Award en 2003 de la meilleure mini-série. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est justement peut-être parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas autant de séries qu'aujourd'hui, il n'y avait pas autant d'offres. Du coup, ben, on pouvait peut-être la classer dans une bonne série pour l'époque. Donc voilà, je pense qu'il y a du positif et du négatif dans cette série. Il y a plus de négatif que de positif parce que c'est un sujet qui peut être sympa. Je trouve qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien, mais c'est pas suffisamment bien développé, surtout au niveau du scénario, qui tient pas du tout la route.
Et c'est traité d'une manière très plan-plan aussi.
Voilà, et je crois qu'il aurait dû peut-être un peu remonter le suspense ou donner un peu plus d'éléments. Et en fait, c'est une histoire d'extraterrestres plus pour les ménagères, j'ai l'impression, parce que c'est pas très pointu non plus dans les explications. Et,
c'est on le apprend. Soap opéra de la SF. C'est une belle manière de voir, je trouve.
Voilà, donc je pense que c'est pas nécessaire de s'attarder et regarder 10 épisodes de 1h30 pour finalement avoir une fin complètement ridicule. Je pense qu'il vaut mieux passer son chemin.
Bon ben voilà, si malgré tout cela et tous ces avertissements, vous êtes intéressé de voir Taken Disparition, sachez que la série est éditée en DVD chez DreamWorks et que vous pouvez donc la retrouver. Bah, si pas, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres séries dans un autre dossier d'Aux Frontières des Séries. À bientôt.
Retrouvez Aux Frontières des Séries sur le web www.afds.tv.